Voilà. Donc, le bonheur de vous présenter Hélène Larbet, je dis pas de bêtises, Larbet ? Larbet, d'accord. Donc, auteur et affichiste du merveilleux, mais aussi diplômé en histoire médiévale à la Sorbonne. Des titres littéraires qui fleurbont déjà notre sujet, Les aventures d'un gobelin en pays de Bro, ou Les vertigineux cabarets des fées désenchantées. L'étrange cabaret des fées désenchantées. Je ne les ai pas encore lus, je suis désolé. Sans oublier que vous illustrez vous-même votre propre univers. Et Georges Bertin, qu'on connaît beaucoup mieux, chercheur, anthropologue, sociologue, esprit critique d'ailleurs comme sa revue, l'imaginaire, le symbolisme, les mythes, leur variation et permanence dans l'histoire, Georges en est le spécialiste. Il nous rappelle que les faits ne nous suffisent pas, qu'on ne peut s'empêcher de voir des choses derrière les choses qui ne sont pas des choses, mais pourtant ne sont pas rien. Si le mythe n'était qu'un mensonge, il n'aurait guère d'emprise sur nous, on s'en débarrasserait donc très aisément. Très élégamment, Hélène, peut-être pour commencer, pour Charles Perrault, on met les faits en fort à faire. Est-ce vrai ?
Je suis désolée, j'ai des petits problèmes d'audition.
Pour Charles Perrault, on met les faits en fort à faire.
Ah, certes, en effet. Ah oui, mais le mois des faits, déjà par la nuit du 1er mai, la nuit de Beltane de Valpurgis, qui ouvre le mois de mai, on entre dans le monde des faits. C'est le temps du petit peuple de la paix aussi. Plus près, bien ah, voilà, c'est mieux, voilà. Donc voilà, en effet, le mois de mai, on va dire que les fées ont réveillé avril avec l'arrivée de tous les bourgeons, et puis en mai, c'est le moment où elles enchantent la nature. Avec la nuit du 1er mai, donc je disais la nuit de Beltane, c'est l'ouverture du mois de mai. C'est le moment du petit peuple de la haie, où tout ce qui est églantier, aubépine, refleurit. On sait que toutes ces plantes-là, dans le légendaire des saisons et le légendaire des fées, bon, Pierre Dubois en parlerait bien mieux que moi, évidemment, mais voilà, et ce sont des plantes très, très symboliques.
Voilà. Georges, une question pour ouvrir. Croire aux fées, c'est croire en soi-même ?
C'est croire à la part secrète de soi-même. La fée, la racine indo-européenne qui est à la racine du mot fée, signifie, c'est la racine ba, hein, signifie parler. Alors lorsqu'on parle des fées, on parle du sort. La racine du mot fée est la même que celle de fatum, fata, le sort. En français, la fable. Alors, c'est à la fois parler d'une réalité qui nous échappe, mais c'est aussi parler de ce qui est déposé au fond de nous-mêmes par les contes et les légendes, celles qu'on nous raconte à la veillée, quand on est enfant, par exemple. Alors aujourd'hui, on a perdu un petit peu l'habitude de le faire de façon spontanée, hein, parce que autrefois la transmission orale sur les faits se faisait très naturellement, parce que lorsque j'allais me promener avec ma grand-mère dans le bocage normand, ben elle me disait tel arbre est l'arbre aux fées. Forcément, le soir, elle me racontait l'histoire de l'arbre aux fées. Hein, aujourd'hui, on lit des contes de fées aux enfants, mais on les introduit quand même dans cet univers. Et puis, on est aussi puissamment aidé par toute l'industrie du merveilleux qui existe aussi. Hein. Bon, Walt Disney a proliféré là-dessus. Alors, il y a en nous une partie secrète. Il y a en nous, disait quelqu'un, quelque chose qui ne nous ressemble pas. Dans une société qui est vouée au mythe hyperbolique de la réussite, de l'ascension sociale, de l'élévation, de le mythe diurne, les images diurnes du ascensionnel, comme dirait Gilbert Durand, eh bien, nous avons oublié qu'il y a en nous quelque chose qui est de l'ordre du nocturne, qui est de l'ordre justement de notre rapport au féminin. De ce rapport au et aux grand-mères, hein, et les fées sont aussi les fées parcs, c'est-à-dire celles qui nous qui protègent. Hein. On le voit d'ailleurs dans le conte de la Belle au bois dormant, par exemple, hein, ou dans le conte de Blanche-Neige. Elles ont derrière elles trois fées, souvent ça marche par trois, hein, et qui sont là pour les protéger. Alors, croire aux fées, c'est croire au destin. Hein, et quoi de plus intéressant que ces récits mythiques, eh bien, pour nous réinscrire finalement dans notre destin d'humain, d'enfant de la fée quelque part. Alors, il y a divers autres sens qui émergent de cette relation au-delà, qui est aussi souvent une transgression des normes terrestres. Entrer dans le royaume des fées, c'est entrer dans celui du surnaturel, dans l'autre monde. D'autres mondes qui est pourtant si proche. Hein. Dans les sociétés animistes, on sait que toutes les forces de la nature, le rocher, comment le lac, le torrent, la source, sont dédiées à des personnages féminins. On raconte chez moi au Bocage normand trois histoires de fées. On peut commencer par cela. La première concerne la fée Gionne. La fée Gionne, c'est tout près de Bagnoles de l'Orne, au Bocage normand, c'est une fée bénéfique qui vit dans un dolmen. Et puis, elle a pris l'habitude de venir se promener le soir dans les chaumières. Et puis, il y a une chaumière qui l'intéresse, elle est fascinée un soir, c'est un soir de Mardi Gras, par le jeu qu'ont fait les enfants qui ont mis les coquilles d'œufs, vous voyez, la coquille, l'œuf, c'est tout symbole de la fécondité, tout symbole de la nature fécondante, le printemps, là, tout ce qui vivre. Hein. Et puis les enfants ont mis dans l'âtre des coquilles à chauffer, avec de l'eau dedans à chauffer. Et puis, comme ça l'a beaucoup amusée, elle revient tous les soirs. Et tous les soirs, elle s'installe au coin du feu, et parce qu'elle se plaît bien dans cette famille. Mais le maître de maison trouve que cette introduction dans leur intimité, la fée, quelque part, est devenue membre de la famille, mais c'est une étrangère dont on a un peu peur. Et il décide de la chasser, et il prend la galetoire rougie au feu, hein, et il la met à la place où la fée vient s'asseoir d'habitude. La fée arrive, elle s'assoit horriblement, elle disparaît par la cheminée en poussant un cri horrible. Et depuis, dit-on, elle persécute les passants. J'en ai une autre, pas très loin, la fée d'Andenne, hein, qui est aussi au sein de la grande forêt d'Andenne, qui fait 7000 hectares, à la limite de la Mayenne et de l'Orne, pour la situer géographiquement, et où on admire le soir à la tombée de la nuit une fée qui est en train de se baigner et de lisser sa belle chevelure, hein, tout près d'un lac, le lac de l'Ermitage. Mais le passant étonné, fasciné par son chant, ne peut s'en déprendre, et lorsqu'il est perdu d'amour, il se précipite sur la fée pour essayer de l'embrasser. Ses mains ne rencontrent que de l'air. Donc vous voyez, ces fées, je pourrais vous en raconter plusieurs au même endroit. C'est littéralement Broléané, le pays des fées, hein, cet endroit qui se situe aux marches du Maine de Petite-Bretagne et de Normandie. Où on raconte énormément de contes de fées. Eh bien, on a affaire à des fées surnaturelles. Alors, dans les traditions indo-européennes, on distingue deux types de fées. Des fées célestes ou météorologiques, fées du vent, fées volantes, fées des nuages. Parfois des demi-dragons volants. Fées de l'envol, elles se manifestent sous forme de colombes, de canards ou d'oies. Ce sont les fées pédos qui n'ont pas de doigts et se transforment en jeunes filles pour séduire le héros, réintégrant l'ancien état après la rupture d'un tabou. Elles participent de constructions fériques à toucher le ciel. Puis on a aussi des fées chtoniennes ou aquatiques, j'en ai cité une tout à l'heure, ou telluriques, les ondines, les nymphes des fontaines, les sirènes de la mer. Elles sont couleuvres, serpents, crapauds, femmes à queue de poisson couvertes d'écailles de poisson, ou poissons à tête de femme, comme la merluce vosgienne. Vous en avez une aussi par là. Elles peuvent aussi être blanches biches au bois. Alors on passe donc dans cette hybridité de la fée femme oiseau qui perd sa robe de plumes pour devenir une belle demoiselle à la fée serpente plus diabolique. Vous voyez, hein, dans les deux exemples que j'ai donnés, il y a à la fois un aspect bénéfique et puis un aspect transgressif. Ce sont des personnages qui font peur un petit peu, comme nous avons peur de notre inconscient quelque part. Donc nature croisée entre fées diaboliques et fées divines, fées animales et fées humaines, hybridité de la fée, ben c'est quelque chose qui est à interroger. Et les figures de la fée nous renvoient, et je pense qu'Hélène en parlerait beaucoup mieux que moi, aux figures de la femme.
Tout à fait. Pour vous parler de la figure de la fée, de la femme et du féminin, je vais d'abord vous proposer une citation tirée donc de l'encyclopédie des fées de Pierre Dubois, qui avec ses mots très poétiques nous dit: elles ont vécu l'antécédent, penchées sur le berceau de nos lents et gauches ébauchements, liées à leurs fuseaux. Elles président à nos naissances, décident de nos destins et tranchent, quand le temps est venu, le fil de la vie. Puis, quand tout paraît fini, elles accueillent nos âmes défuntes au sein d'une vandoise et les conduisent renaître sous les pommiers d'or des Édens retrouvés. Ce sont les déités des lieux, des sources, des montagnes, des prés et des bois, les maîtresses de nos songes, les reines d'Avalon, les serpes de l'obscur, les nymphes de l'aurore, celles qui font et défont les saisons. Mais ces puissantes, dont certains hésitent à prononcer le nom, possèdent un cœur de femme que brise le moindre manquement. La figure de la fée sur 9 siècles se construit, évolue, change et se réinvente, car la fée qui cristallise les rêves et les craintes d'une société ordonnée d'interdits, souvent figée, se fait révolutionnaire, incarnant les idées nouvelles, transgressant les règles et les codes imposés à la société humaine, et offrant au féminin une voix et une liberté qu'il mettra des siècles à faire entendre hors les mythes. Voilà. Bien sûr, il y a dans la fée originelle une certaine filiation avec les puissantes déesses de l'Antiquité, Vénus, Diane Artemis, Cérès Déméter, et les petites divinités tutélaires attachées à la nature et aux lieux, les nymphes, bien sûr, de toutes sortes, mais aussi les dryades et amadryades des forêts. De même, la fée partage certains traits avec les grandes magiciennes de l'Antiquité, telles que la colère, la vengeance ou bien sûr les arts obscurs. Nous pensons bien sûr ici à Médée, à sa tante Circé, dite Polypharmakos par Homère, donc qui connaît Polypharmakos, donc qui connaît toutes les plantes, ou Éricto aussi, la fameuse sorcière thessalienne, nécromancienne. La fée hérite également des dons des moires, des parcs et des nornes, Georges nous en a parlé tout à l'heure, scandinaves, pour intervenir dans la destinée humaine. Mais la fée emprunte avant tout au monde celtique, à la dame de l'autre monde, la Ban Sid, que ce soit dans son aspect, donc on a les cheveux dorés, la blancheur de la peau, les lèvres rouges, vêtues de blanc et d'or généralement, son habitat, les eaux douces, ou les forêts, ou surtout, peut-être avant tout, son caractère, car la Banshee, la femme fée, est une créature éthérée, hybride, belle bien sûr, mais ne le négligeons pas, libre et hardie. Elle choisit le héros qu'elle amène dans l'autre monde, généralement pour l'initier, que ce soit littérairement, militairement d'ailleurs ou sexuellement, ou bien son époux parmi les humains. Et c'est peut-être bien de ses racines celtes que la fée puise cette liberté qui la caractérise. En des temps à la morale stricte et à la sexualité très codifiée, y compris entre époux, la fée offre des amours libres, sans péché, ni amertume, qui durent une nuit ou une éternité. Mais si la liberté sentimentale et sexuelle est grande, les amours des fées gardent des traits parfaitement humains. Alors osons le mot qui fâche, pourrait-on dire que la fée est féministe avant l'heure ? Alors, voilà. En bien des points, la fée médiévale est l'alter ego de la noble dame du Moyen-Âge. Elle possède son apparence, ses vêtements, sa taille, son rang, un palais, des chevaux, mais toujours de plus riche et de plus belle facture, ce qui nous renseigne indubitablement sur son statut de fée. C'est parce que tout est beauté en sa personne que l'être est fée, et non l'inverse. En comparaison aux humaines de leur époque, les fées sont en revanche libres de leur corps, de leur cœur et de leur richesse. Les femmes médiévales, elles, dépendent toujours d'une autorité masculine dans une société régie par les hommes, et ce, quel que soit leur rang de naissance, leur fonction ou leur douance, quelque domaine que ce soit. Que ce soit sous l'apparence de la Vierge, de la Sainte ou de la Dame, le piédestal sur lequel on élève les femmes, l'adoration qu'on leur voue, se révèle in fine une prison dorée. En face, la fée demeure libre de ses mouvements, de ses choix, de ses bienfaits et richesses qu'elle dépense ou reprend, tout comme son amour, en châtiant les trestres s'il le faut. Ainsi, dans la société, la fée dans la société médiévale est ce que la dame voudrait être, ce que le chevalier voudrait avoir. Beauté et liberté pour l'une, amour, richesse pour l'autre. Ainsi, un des aspects caractéristiques de la fée, sûrement un de ceux qui lui permettent ses métamorphoses et ses réinventions, est cette incroyable capacité de toujours devancer l'époque qui continue à la réécrire.
Il y a au Moyen-Âge, notamment, un grand nombre de récits qui nous parlent d'une fée bien particulière, bien identifiée, qui s'appelle Mélusine. Mélusine, puisqu'elle est à la racine de la généalogie des contes de Lusignan, en Poitou, mais on la trouve aussi dans d'autres endroits. Je parlais de ma région, j'y reviens, et mes enquêtes de terrain. Nous avons à Rannes, tout près de la forêt d'Andenne, à une des portes de la forêt d'Andenne, un château où on montre sur le créneau l'empreinte du petit pied mignon de la fée de Rannes qui aurait pris son envol pour s'en aller à cet endroit-là. Alors, qu'est-ce que c'est que cette Mélusine ? Donc, c'est une tradition mélusinienne. Précine, qui est la mère de Mélusine, lui dit « Tous les samedis, tu seras serpente, du nombril au bas du corps. Mais si tu trouves un homme qui veuille bien te prendre pour épouse et promettre de ne jamais te voir le samedi, tu suivras le cours normal de la vie. Toutefois, si ton mari vient percer ton secret, tu seras condamné à retourner au tourment jusqu'au jugement dernier. » Voilà comment, en quelque sorte, Précine, la mère de Mélusine, l'installe dans son destin. Alors Mélusine est avec Gargantua une de nos fées mythologiques nationales majeures. Donc je disais que sa légende est liée au Poitou, mais on trouve aussi la légende de la fée d'Argouges en Normandie, qui est une légende parallèle. Et les aventures de la fée Mélusine ne sont pas directement liées aux légendaires arthuriens des 12e, 13e siècles, puisque le premier roman connu de Mélusine est dû à Jean d'Arras, 1392, et le second à Couldret, 1401. C'est d'ailleurs intéressant, parce que le roman de Couldret est commandité par les seigneurs de Parthenay, qui veulent aussi se donner une lignée férique, en quelque sorte. Ce qui prouve que dans les familles du Moyen-Âge, dans les familles seigneuriales, comtales ou ducales du Moyen-Âge, bien le fait d'avoir une fée comme ancêtre, eh bien c'était une survalorisation de la famille. Ça faisait entrer la famille en quelque sorte dans un destin surnaturel. Alors elle a différentes fonctions. Je vais continuer le récit sur Rannes parce que c'est beaucoup plus concret. Le seigneur de Rannes est un brillant chevalier qui s'en va à la chasse tous les samedis avec ses pairs. Et puis un jour, le cerf est parti d'un côté, ses compagnons de l'autre, les chiens appellent au loin. Il entend les sons de corps, il ne sait plus trop où il est. Et il s'approche d'une fontaine et il voit près de cette fontaine une fée qui s'ébat avec ses compagnes à demi nu dans l'eau et qui s'asperge joyeusement d'éclaboussures. Et quand elle le voit arriver, eh bien, elle se gausse, elle se moque de lui. Mais il la trouve tellement charmante, eh bien, qu'il reste, nonobstant son orgueil, il reste auprès de la rivière et il va la prier d'amour. Et curieusement, la fée, eh bien, lui répond positivement. Mais elle lui dit, je veux bien venir avec vous, en votre château, vous épouser. Mais j'y mettrai une seule condition, c'est que jamais devant moi, vous ne prononcerez le mot de mort. Dans d'autres versions, d'ailleurs, de la Mélusinienne, elle doit prendre son bain le samedi, on ne doit jamais la voir prendre son bain. Enfin, peu importe. Donc, ils vivent pendant 7 ans d'un bonheur sans égal. Ils ont des enfants. Et puis, un jour, comment le chevalier et la dame sont attendus dans un dîner, dans un château du voisinage. Vous savez comme sont les dames quand elles sont à leur toilette, elles nous font toujours attendre. Et le seigneur commence à trouver le temps long parce que l'attente a duré longtemps. Il envoie un premier serviteur chercher pour prendre des nouvelles de la dame. Il revient lui dire « la dame n'est pas prête ». Il attend encore un peu, mais sa patience est mise à rude épreuve. Un second serviteur s'en va. Il revient avec la même réponse. Alors le seigneur, courroucé, s'avance dans l'escalier, monte jusqu'à la chambre de la dame, ouvre brutalement la porte et lui crie « Madame, c'est plutôt la mort qu'il faudrait vous envoyer aller chercher ». Il a prononcé le mot fatidique, elle s'enfuit avec un cri horrible et on ne l'a jamais revue, mais certains jeudis soirs, des nuits sans lune, eh bien on la voit errer, lamentablement auprès de son mari et de ses enfants, pleurant son bonheur disparu avec des cris horribles. Et ce scénario de la fée qui revient s'occuper de ses enfants, qui est aussi une fée maternelle, mais qui déchue de sa puissance maternelle justement parce que son mari a transgressé un interdit, eh bien on le retrouve dans nombre des scénarios de la fée mélusinienne. Donc, alors, les Lusignans sont très fiers d'avoir une fée. On dit aussi d'ailleurs que les Plantagenets, d'une certaine façon, sont rattachés à la dynastie férique. À tel point d'ailleurs que comme la fée était connotée en mauvaise part, on dit que tous les ennuis qui sont arrivés aux Plantagenets, vous savez comme moi que après le mariage heureux d'Henri II et d'Aliénor d'Aquitaine, les choses vont aller de mal en pis puisque le père, les fils, la mère, tout le monde va prendre fait et cause les uns contre les autres. Le père va être fâché avec les fils, il va emprisonner Aliénor d'Aquitaine pendant de nombreuses années dans un château en Angleterre. Et finalement, Jean Santerre, le dernier héritier mâle de la lignée, eh bien, il va perdre toutes les possessions des Plantagenets au profit du roi de France. Et à ce moment-là, il n'a pas manqué de mages ou de mires à la cour des Plantagenets pour dire ben, « c'est la malédiction de la fée ». Et donc, alors ça c'est le schéma mélusinien. Alors il y a un autre schéma dans les légendes du Moyen-Âge, qui est le schéma morganien, présent dans les récits irlandais, leur relation aussi, comment tu en as parlé, au paradis celtique à Valon, où elles vivent parfois au nombre de 9. Alors dans ce schéma, la fée invite le héros au pays de l'éternelle jeunesse, sans mort ni vieillesse. Elle est aussi celle qui élève le héros en dehors du monde des hommes, c'est le cas de Lancelot d'ailleurs, dans le roman de Lancelot du Lac, et sa figure maternelle peut aller jusqu'à celle de la mère amante, ce qu'on trouve dans le roman de Beaujeu, Le Bel Inconnu. Elle est très souvent fée sylvestre, projection de la Diane latine, tu l'as dit, et sujette aux métamorphoses.
Donc, pour rebondir en effet sur tout ce que Georges vient de dire, donc tout d'abord sur Mélusine, je dirais juste un petit mot, c'est que il y a une universitaire qui a été présente à des colloques qui ont précédé les Imaginales, qui s'appelle Johanna Pavleski, qui a soutenu là dans les derniers mois une thèse absolument brillante sur Mélusine. Donc pour ceux que ça pourrait intéresser, voilà, je pense que cette thèse est tout à fait disponible. Elle l'a soutenue il y a, je crois, 4 ou 5 mois à l'université de Rennes. Voilà, très très intéressante.
Ouais. Et aussi Françoise Clié-Colombani, plus ancienne, qui est publiée au Léopard d'Or, je crois.
Tout à fait. Ouais. Voilà. Et donc c'est vrai que c'est bien de voir aussi ces jeunes chercheurs qui continuent à être passionnés par tout ça. Donc voilà, elle était présente d'ailleurs plusieurs colloques sur le sujet aux Imaginales. Donc moi je vais rebondir sur notamment l'imagerie, on va dire, de la fée au Moyen Âge. Mais avant d'en venir à ça, je vais juste vous donner un petit cadre historique en fait, juste avant pour se repérer un petit peu. Alors, Les 12e et 13e siècles voient émerger puis fleurir ce nouveau genre littéraire qui est le roman, et donc c'est la matière de Bretagne. Tu l'évoquais tout à l'heure, donc avec Lancelot du Lac, etc. Donc la matière de Bretagne, c'est un ensemble d'écrits, des romans et des lais, centrés autour du roi Arthur, de sa chevalerie et du Graal, voilà, qui émergent et perdurent auprès du public. De la blanche dame celtique et médiévale, un peu magicienne, un peu marraine, présidente aux destinées, souvent amante, faiseuse de rois et de lignées, comme tu l'évoquais avec Mélusine, toujours reliée à la nature, un glissement s'effectue dans les siècles suivants. Au XIVe et XVe siècle, la légende noire, la fée perd de sa nature merveilleuse, diabolisée, rationalisée par l'Église, la fée se fait sorcière, vieillissante, on lui ôte sa beauté, son aura, son immortalité. Je pense qu'il y a des ponts qui peuvent être tissés avec la conférence que tu as faite hier. Voilà. À la fin du Moyen-Âge, les romans féeriques survivent. Naissent alors les contes de fées qui prendront leur essor au XVIIe et XVIIIe siècle. En Italie, au XVIIe, Giambattista Basile donne la première version des contes qui deviendront Cendrillon, la Belle au bois dormant, ou Jack, le tueur de géants. Mais nous allons surtout nous concentrer sur l'Angleterre avec Shakespeare et les dramaturges élisabétains. Cette époque voit l'émergence donc des diminutive fairies, donc Oberon, Puck, Titania par exemple, la minuscule reine Mab. Dès le début du XVIIe, les fées sont rapetissées, miniaturisées et leur pouvoir avec, bien évidemment. Cette image sera reprise dans la peinture du XIXe. Et dans les représentations contemporaines, d'ailleurs, si vous allez voir la fresque, il y a des diminutive fairies sur la fresque de cette année.
Superbe.
Donc, ça continue. car en effet, il n'existe que très peu de représentations médiévales des fées. Les 16e et 17e furent également peu intéressés par leur imagerie. Donc, c'est véritablement le 19e siècle, avec tout à la fois les écrivains du Machen, le conte des pré-raphaélites et les symbolistes, les fairy paintings et les illustrateurs de livres pour enfants, qui donnent trait aux fées des contes et des légendes. Devant l'industrialisation grandissante, l'Angleterre victorienne revient vers les fées et le rêve du surnaturel. C'est le temps du fairy painting et de la littérature enfantine, mais c'est surtout le temps donc du pré-raphaélisme, donc car au 19e, un groupe d'hommes et de femmes se constitue, porte le nom de pré-raphaélites. Donc pour leurs toiles et motifs, les artistes ont puisé leur inspiration dans les mythes antiques et les romans médiévaux. Les contes de la tradition orale, la poésie des 18e et 19e siècles, et bien loin des sujets académiques d'irrespectables, ils leur préféraient se tirer des légendes celtes et du folklore anglais, et étaient inspirés par des poètes romantiques comme Shelley ou Tennyson. Tennyson publie Les Idylles du Roi, un recueil de poèmes inspirés par les légendes arthuriennes, et John William Waterhouse représentera plusieurs fois The Lady of Shalott, que l'on voit donc là à l'écran, Sir Edward Burne-Jones, Merlin et Viviane, ou encore La Mort d'Arthur. William Morris, qui se tourne et plutôt dans les arts décoratifs, représentera lui aussi en tapisserie Les Chevaliers de la Table Ronde. Nous avons vu tout à l'heure la Belle Dame sans merci, représentée par Sir Frank Dixie, donc. Mais au XIXe siècle, les pré-raphaélites ne sont pas les seuls à s'attacher à la représentation des fées celtiques et médiévales. Le symbolisme écossais, avec John Duncan, que vous voyez à l'écran, nous livre une œuvre vraiment fabuleuse, mystique hein, presque. The Talking of Excalibur occupe une paroi entière de la salle commune de l'aile de l'université de l'Outlook Tower. Nous y voyons donc Nimue, la dame du lac, qui regarde Morgane la fée brandir Excalibur hors de l'eau en direction de la barque qui ramène Arthur et Merlin âgés. Chacune des trois reines et fées qui seront aussi présentes à la mort d'Arthur porte autour du cou un pendentif symbolique. Trois feuilles, un cœur avec une fleur de lys et un nœud celte. Pour Duncan, comme pour son ami William Sharp, L'autre monde n'était pas peuplé de minuscules femmes ailées, voletant comme des moucherons, mutins et inoffensifs, mais de créatures du folklore écossais, de ces lointaines fées aux racines celtes, capables du meilleur comme du pire. Et donc, ce qui est très intéressant avec Duncan, c'est que Duncan s'amuse dans beaucoup de ses toiles, enfin s'amuse, je dis s'amuse, mais c'est évidemment bien tout à fait réfléchi, tout à fait voulu, à cacher des symboles, voilà, des symboles celtiques, des symboles, je ne sais pas si je peux dire ésotérique, mais en tout cas, il y a beaucoup de symbolique cachée dans ces tableaux, et cela permet évidemment plusieurs niveaux de lecture très intéressants dans son travail. Donc voilà. Ensuite, nous allons vous parler du pays des fées, il me semble, que nous en arrivons là. Le pays des fées. Pour vous parler du pays des fées, nous allons ouvrir sur une citation de Yeats qui nous dit « En Irlande, il n'y a pas de rupture entre notre monde et l'autre. Parfois, on dirait même que tous nos biens terrestres ne sont que l'ombre des choses de l'au-delà. » Donc l'autre monde, ou le monde qui est autre, est terre de fées, qu'il se nomme Cid, Avalon, pays des merveilles, pays imaginaire, mais aussi plus récemment pays d'Oz, Narnia ou Poudlard, je dirais. Le monde des fées a pour caractéristique d'être une porte ouverte vers l'ailleurs. Une porte ouverte à la faveur de certaines périodes, de certains lieux ou de certaines circonstances. Il y a toujours celui ou celle qui lève le voile, qui guide, qui montre le chemin et qui déverrouille les serrures, et ceux ou celles qui prennent la main qui leur est tendue et entrent en conscience dans le pays des fées. Dans les récits médiévaux, le pays des fées est décrit comme très semblable à celui des hommes de l'époque. Nous y trouvons des châteaux, des chevaux magnifiquement harnachés, des chasses, des forêts giboyeuses, des banquets foisonnants, de la musique, de la poésie. Mais certains codes révèlent sa nature surnaturelle, la beauté extraordinaire de toute chose, ou à l'inverse, l'extrême laideur de certains détails, l'abondance matérielle, souvent frappée d'interdits, comme la nourriture, par exemple, on pense au lait de Ingamore, notamment au lait médiéval très connu, où on retrouve déjà ces interdits alimentaires. L'Irlande et l'Écosse sont les terres de prédilection des fées. C'est sur ces terres de légende que nous retrouvons le plus de récits merveilleux, de tertres merveilleux, pardon, et féeriques, d'où s'échappe la musique des fées, enchanteresse, comme chacun sait, et qui attire irrévocablement le promeneur curieux. Nous pensons bien sûr à la célèbre histoire de Thomas le Rimeur, que je pense certains d'entre vous connaissent bien, le meilleur des musiciens d'Écosse, qui reste donc cette année dans l'autre monde, emmené par la reine des fées, avant de rejoindre le monde des hommes, gratifié de dons extraordinaires, et donc notamment de dons de voyance, en fait, qui est de clairvoyance, voilà, le cadeau des fées. Donc, et puis après, pour avoir franchi le monde des fées une première fois, dans le conte, on sait qu'au moment de sa mort, eh bien, c'est là-bas qu'il y retournera. Il a les pieds dans les deux mondes, hein, Thomas le Rimeur. Donc, très nombreux sont les tertres et montagnes féeriques en Écosse, dans les Borders, les Eilean Heaths, veille sur le sommeil du roi Arthur et de ses guerriers, par exemple. Il y a encore beaucoup d'autres contes, la colline de Thormorfrid, etc. Donc là, je vous renvoie vraiment à lire, on va dire, les contes et légendes d'Écosse ou d'Irlande. En France, Paul Sébillot dénombre une quantité incroyable de grottes aux fées, pierres aux fées, trous aux fées. Alors effectivement, on en trouve beaucoup en Normandie, parce que je suis aussi originaire de cette région, donc c'était très intéressant, parce que je connais aussi bien justement les légendes locales, et on en trouve effectivement, c'est une région très riche, pas que, on en trouve bien sûr beaucoup en Bretagne et ailleurs, hein, évidemment. Donc comme tu l'as si bien dit, les fées vivent au fond des grottes, près des puits, des fontaines, sous un dolmen, en effet, à la faveur d'horaires précis, de lunaisons ou de saisons, de dates spécifiques sortent pour aller danser sur la lande ou simplement parfois, dans certaines légendes, aller faire leur lessive. Donc c'est très drôle, effectivement, les fées sortent, elles font leur lessive, elles étendent leur linge, elles font sécher leur linge, elles le blanchissent au soleil. Voilà, c'est tout. Voilà, les fées sont très propres. C'est à savoir. Voilà, parfois le pays des fées est encore plus circonscrit qu'une colline, une grotte ou un dolmen. Il suffit aux malheureux voyageurs d'être pris dans une ronde sur la lande ou de poser le pied dans un cercle de fées pour danser toute la nuit jusqu'à en mourir d'épuisement. Là encore, je vous renvoie de nombreuses légendes locales qui sont très riches, renvoyant à ces histoires-là. Et enfin, je dirais, le pays des fées est aussi tributaire du calendrier. Parfois, les passages ne s'ouvrent et ne se découvrent aux yeux des mortels qu'à des dates bien précises, des dates héritées le plus souvent de traditions et croyances celtiques. Ainsi, les équinoxes de printemps ou d'automne, connus aujourd'hui sous le nom de Samhain Halloween, mais aussi les solstices d'hiver, le Noël, notre Noël, je dirais, et la Saint-Jean, et donc et d'été, la Saint-Jean actuelle, donc le solstice d'été. Ce sont des dates privilégiées pour observer le passage d'un monde à l'autre. Et la nuit du 1er mai, nous en parlions tout à l'heure, Beltén, chez les Celtes, ou nuit de Valpurgis chez les Germains, est encore une de ces dates importantes du calendrier païen, toujours en lien avec la nature, où les apparitions féeriques sont légion. Nous pensons par exemple à la légende de la vallée hantée de Glenavon, que l'on retrouve dans Fantômes d'Écosse et autres histoires. Et donc, effectivement, c'est l'histoire de deux frères qui se promènent donc sur la lande. On est dans la nuit le lendemain de la nuit du 1er mai. Et effectivement, sous une pierre, sous une pierre, les fées donnent un bal et font la fête parce que c'est la nuit du 1er mai. Donc, elles festoient les fées à cette occasion. Et un des deux frères va tomber dans le royaume des fées et il faudra à son frère aîné. Il va lui falloir attendre un an pour que le royaume des fées, cette même nuit, la nuit du 1er mai, s'ouvre à nouveau afin qu'il puisse retrouver et récupérer et sauver son frère. Donc voilà, là, dans cette histoire-là, on voit bien que le pays des fées ne s'ouvre qu'une fois l'an. Donc les pays des fées, qu'ils soient physiques, spirituels, inscrits dans une temporalité ou une intemporalité à l'inverse, sont presque aussi nombreux que les légendes elles-mêmes, et nous méditerons peut-être sur les mots toujours très poétiques de Pierre Dubois, qui nous dirait certainement que franchir le seuil de cet autre monde, c'est toujours ouvrir la porte du dedans.
Un des exemples de cette manifestation du royaume des fées nous est donné par le roman arthurien, s'appelle l'île d'Avalon. Alors l'île d'Avalon, vous souvenez de l'histoire du roi Arthur, après la quête du Graal, après les bisbilles et les querelles qui s'organisent entre les différents chevaliers, dont ses deux chevaliers préférés, Gauvain et Lancelot, puis surtout parce que Mordred, le fils incestueux qu'il y a eu avec la fée Morgane, l'a trahi. Eh bien, les chevaliers de la Table Ronde passent dans une période de déclin. La dernière bataille qui a lieu, c'est la bataille de Camlann. Ça a été bien rendu d'ailleurs dans le film de Borman, Excalibur, hein, et on voit Mordred, le fils d'Arthur, et Arthur s'entretuer. Le roi Arthur, blessé mortellement, utilise ses dernières forces pour se rendre. Dans certaines versions, c'est au bord d'un lac, et un lac d'ailleurs qui revendique ça en Cornouailles, nous avons été quelques-uns à visiter, que d'autres peut-être d'ici visiteront prochainement, ou au bord de la mer. Et là, le roi Arthur est blessé mortellement, sans ses forces l'abandonner, et il a gardé avec lui sa bonne épée Excalibur, l'épée magique qui lui a été transmise par une fée d'ailleurs. Il demande à son serviteur, Bedivere, eh bien, d'aller jeter l'épée dans le lac pour que personne ne puisse la récupérer. Le serviteur s'en va, puis il dit, une si belle épée, je vais quand même pas la jeter dans le lac, le roi Arthur va bientôt mourir, il la cache dans un fourré. Il revient. Le roi Arthur lui dit, as-tu jeté l'épée? Oui, sire, je l'ai fait. Qu'as-tu vu? Je n'ai rien vu, sire. Tu n'as pas jeté l'épée, retourne faire ton travail que je t'ai dit. La scène se reproduit trois fois et finalement, Bedivere va jeter l'épée dans le lac. Et au moment où il jette l'épée dans le lac, vous connaissez tous l'image, c'est d'ailleurs l'affiche même du film Excalibur de Borman. Eh bien, une main férique surgit des entrailles du lac, attrape l'épée et l'attire avec elle au creux du lac. Et à ce moment-là, on voit une nef qui apparaît dans le brouillard, qui se rapproche, et des fées en descendent. Morgane est à la proue de l'esquif et elles emmènent le roi Arthur dans le pays des fées, le pays des fées à Valoir. Ça a été très bien rendu par le cinéma et notamment ça a été remis en vigueur d'une façon magistrale et extraordinaire par le très beau roman de fantasy. Hein, les brumes d'Avalon, The Mist of Avalon, La Dame du Lac de Marion Zimmer Bradley, qui nous montre Morgane, la fée Morgane, en initiatrice et en prêtresse du royaume d'Avalon où elle initie les fées. Et ça rejoint tout à fait la légende du roi Arthur, puisque Morgane est supposée avoir régné avec 9 sœurs, 9 fées, hein, sur cette île merveilleuse. D'où les chevaliers, où les chevaliers peuvent se faire soigner. Alors, comme on n'est pas sûr de la mort du roi, il y a toute une tradition celtique qui nous dit, que grâce aux soins des fées, il pourra revenir. Rex Arthurus, Rex Quondam Futurus. Et le jour où le roi Arthur reviendra dans notre monde, la fraternité universelle régnera sur la terre. Nous l'attendons tous impatiemment, bien entendu. Toujours est-il que ce mythe d'Avalon, bien mis au jour, est présent dans le corpus arthurien médiéval. Il y a aussi d'ailleurs un DVD que je vous conseille, qu'on peut trouver très facilement sur Internet, qui reprend le thème d'Avalon. Et le roman de la romancière Marion Zimmer Bradley. Elle a écrit d'ailleurs toute une trilogie sur cette question. Ce sont des romans très abordables et très très beaux. Comme nous sommes dans un festival du livre, ça valait la peine de le citer, surtout que c'est un roman de fantasy. Merlin, il joue un rôle d'ailleurs secondaire par rapport à Morgane et à Viviane, qui tiennent vraiment le haut du pavé, du pavé féerique en quelque sorte, si je m'exprime ainsi. Et donc ce royaume d'Avalon, Afalac, en celte, signifie le jardin des pommes. Alors, si vous croisez un jardin des pommes un jour dans une île au cours d'un, peut-être serez-vous en présence de l'île d'Avalon. Mais nous avons la prétention de savoir où il est. C'est à Glastonbury. Glastonbury, qui est un chef-lieu de canton du comté du Somerset et qui est une ville tout à fait extraordinaire. Et vous voyez que le où le passé féerique va rejoindre l'actualité. C'est que on dit que ils sont enterrés le roi Arthur et la reine Guenièvre. Leur corps a été retrouvé en 1191 par les moines de l'abbaye à la demande de d'Henri II Plantagenet, qui lui aussi voulait se créer d'une certaine façon une filiation mythologique avec le roi Arthur et la reine Guenièvre. Et Guenièvre, on ne sait pas trop, c'est les naturels. Son nom c'est Gwen Ifar, le blanc fantôme. Blanc fantôme, ça peut être une fée aussi. Elle a quelque part, il y a une ambiguïté dans le roman arthurien sur la personnalité de Guenièvre. Et cet Avalon, avant que les chrétiens s'y installent, avant que Joseph d'Arimathie, le disciple du Christ qui l'ensevelit, y apporte le Graal, on dit que c'était le lieu d'un lieu d'initiation aux traditions druidiques celtiques, où sévissaient notamment les fées qui jouaient un très grand rôle. On dit même d'ailleurs que pendant sa vie cachée, le Christ serait venu s'y initier aux traditions celtiques. Vous savez, il y a un moment où il disparaît, pendant une trentaine d'années à peu près. Nous avons maintenant la réponse, grâce au romancier, il est venu en Avalon se ressourcer. Alors aujourd'hui, le lieu d'Avalon me fascine, moi j'y suis allé un grand nombre de fois, je crois que 7 ou 8 fois, parce que c'est un lieu extraordinaire de partage. D'abord, il y a une monnaie locale qui circule, il y a des échanges extraordinaires, il y a un melting pot de gens qui viennent de toutes les religions du monde et qui s'y croisent pour vivre d'une certaine façon dans une perspective féerique. Qui s'écartent un peu de notre société, de l'abondance, de la production, de la technicité et de l'efficacité à tout prix, pour revivre sur un registre. Et s'y est créé il y a une quinzaine d'années maintenant, et dans le numéro de Matière à penser auquel Jacques Auréfis a participé, vous trouverez qui s'appelle Enquête de spiritualité, un article de Katie Jones, qui est la grande prêtresse aujourd'hui d'Avalon et qui forme des femmes au culte des fées et au culte de la grande déesse. Hein, et autour de cela, bien, s'est organisé, eh bien, véritablement, une société qui est un peu hors du temps et une société, eh bien, qui se veut participer de la tradition férique. On aurait pu dire quelques mots aussi de, puisqu'il s'agit de livres d'André Breton.
Oui, c'est ce que je pensais. Voilà. Oui.
Alors André Breton s'est intéressé aux fées. Vous connaissez tous André Breton, pape du surréalisme, nos plus grands poètes du XXe siècle, la Pléiade, fondateur du groupe surréaliste de Paris. Et André Breton, eh bien, dans un ouvrage qui s'appelle Arcane 17, hein, qu'il publie au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, appelle de ses voeux le retour de Mélusine. Je le cite. C'est l'achèvement d'une quête. Après les aspirations sidérales, après la fusion de la jouissance absolue, des images de la mer, de la nuit et du gouffre, mais aussi de la femme enfant, de la femme fleur, de la coupe de l'éternelle jeunesse, c'est une reconquête du désir comme processus d'initiation à la découverte de l'étoile retrouvée, de l'amour dans la liberté. Car, dit-il, est venu le temps où il s'agit bien de débouter l'homme par une véritable révolution, un retournement de son être, de faire valoir les idées de la femme. Aux dépens de celle de l'homme dont la faillite se consomme assez tumultueusement aujourd'hui. Désir de toutes ces instances, tant que la femme ne sera pas parvenue à reprendre de ce pouvoir sa part équitable, et cela non plus dans l'art, non dans la vie. Et il annonce le retour de Mélusine. Oui, c'est toujours la femme perdue, celle qui chante dans l'imagination de l'homme, mais au bout de quelles épreuves pour elle, pour lui, ce doit être aussi la femme retrouvée. Et ce retour s'incarne donc dans le retour de Mélusine. Et voilà comment il décrit Mélusine. Mélusine. Au-dessus du buste se dort de tous les reflets du soleil sur le feuillage d'automne. Les serpents de ses jambes dansent en mesure au tambourin. Les poissons de ses jambes plongent et leurs têtes reparaissent ailleurs, comme suspendues aux paroles de ce saint qui les prêchait dans le myosotis. Les oiseaux de ses jambes relèvent sur elles le filet aérien. Mélusine. À demi reprise par la vie panique, Mélusine aux attaches inférieures de pierrailles ou d'herbes aquatiques ou de duvets de nid. C'est elle que j'invoque, je ne vois qu'elle qui puisse rédimer cette époque sauvage. C'est la femme tout entière, et pourtant la femme telle qu'elle est aujourd'hui, la femme privée de son assiette humaine, la légende le veut ainsi par l'impatience et la jalousie de l'homme, car Mélusine avant et après la métamorphose est Mélusine. Et nous rejoignons là ce que tu nous disais tout à l'heure à propos de Mélusine comme l'effet, comme incarnation de la féminité.
Tout à fait. Voilà. Compléter exactement ce que tu disais, la petite diapo que j'avais préparée. Donc, effectivement, pour laisser peut-être un peu de temps aux questions, je ne sais pas... Faut garder un peu de temps peut-être pour les questions.
Oui.
Donc je vais peut-être terminer sur une ouverture.
Bien sûr.
Voilà, une ouverture qui a un lien avec les images des imaginales de cette année, bien sûr, vu que John Ho est un des invités d'honneur des imaginales, donc, et l'affichiste. Et en fait, voilà, cette année, ce sont les 30 ans du Centre de l'imaginaire arthurien en Bretagne. Donc c'est un lieu de l'imaginaire, c'est un lieu effectivement, nous verrons tout à l'heure, que John Ho a fréquenté plusieurs fois, et donc il y a eu des documentaires notamment qui ont été réalisés à la recherche du Hobbit avec John Ho qui ont été réalisés là-bas. Effectivement, en 88, c'est l'année où le Centre de l'imaginaire arthurien est créé par des universitaires et des auteurs comme Michel Lebris, par exemple, qui a fondé aussi Étonnant Voyageur à Saint-Malo, et Gilbert Durand, mais aussi Claudine Glot. Et donc, c'est l'époque où ce centre est créé, ce centre de l'imaginaire arthurien. C'est un centre qui a, je dirais, pour vocation, voilà, c'est un centre qui a pour vocation de rassembler les passionnés des mondes celtiques, médiévaux et arthuriens, de promouvoir on va dire, toute œuvre qui s'en inspire et de créer un échange, on va dire. Hein. Donc là, par exemple, vous voyez, les œuvres, ce ne sont pas les miennes, mais ce sont les œuvres de plusieurs illustrateurs de la féerie aujourd'hui. Donc il y a Brucero qui a été exposé aux Imaginales il y a 2 ans, donc c'est pour ça que je fais aussi le lien. Et Didier Graffet, donc qui a représenté notamment cette fameuse image dont tu nous parlais là, on la voit sur le côté de cette main sortant, voilà. Donc c'est pour ça que je faisais le lien aussi un petit peu avec tout ça, tout est lié, je dirais, comme toujours. Donc voilà, et les rencontres de l'imaginaire fin juillet, chaque année, là encore, date de la Saint-Jean, donc on est toujours dans la symbolique. Il y a de noms, donc ce sont des... Bien sûr, c'est moins important que les Imaginales, hein, mais c'est aussi un lieu d'échange et de rencontre. Et donc, il y a Alan Lee et John Ho qui ont pu y participer, qui ont participé plusieurs fois. Et je dirais que, voilà, que comme les Imaginales ou d'autres festivals tournés vers l'imaginaire, on peut dire que ces manifestations-là se veulent un pont entre tradition et modernité. Et pour terminer, je dirais juste, voilà, je dirais juste que Gaston Bachelard disait « Les êtres cachés, fuyants, oublient de fuir lorsqu'on les appelle de leur vrai nom ». Et nous pensons qu'en bien des domaines, des structures indispensables telles que les Imaginales, les IME, ou encore le CIA, donc en Bretagne, sont justement de celles qui s'attachent à connaître et à chercher et à faire découvrir, chacun à leur manière et de façon très complémentaire, je trouve. Le véritable nom de ces êtres cachés fascinants que sont les fées.
Ah, merci beaucoup de cette évocation. Pour conclure, je dirais que ce voyage au pays des fées que nous avons fait ensemble, eh bien, nous a emmené dans 3 directions. La direction du passé, avec un retour en arrière vers le site, l'autre monde, hein, dont il est difficile de sortir. Dans le présent, mais moment d'une impalpable brièveté, peut-être que là, des fées sont autour de nous, dans cette pièce, et que nous avons quelque part un peu de mal à les percevoir, sauf si nous sommes particulièrement éveillés, voire initiés. Et puis le futur, hein, tu as parlé de du centre de recherche sur l'imaginaire arthurien, j'ai créé quelque chose de cet ordre-là, et nous avons le 29 septembre, chaque année, la dernière week-end de septembre, un week-end arthurien à Angers, hein, où nous évoquons aussi les figures arthuriennes. Nous en avons d'ailleurs publié un colloque sur Gentes dames et méchantes fées que vous trouverez à la réception. Je terminerai simplement par une citation de Breton, à nouveau, poète pour lequel j'ai beaucoup d'affection, parce qu'il était aussi, il est né dans l'Orne, qui est mon pays. Mais pas uniquement pour ça, parce que c'est sans doute un de nos plus grands poètes du XXIe siècle. Dans ce voyage aux figures féeriques, chez Breton, oui, c'est toujours la femme perdue, celle qui chante dans l'imagination de l'homme, mais au bout de quelles épreuves pour elle, pour lui, ce doit être aussi la femme retrouvée. Merci Hélène.
Merci Georges.
Georges, Hélène, le temps, je pense, de quelques questions, et je ne résisterai pas aussi à une petite citation de Breton, qui est aussi mon écrivain préféré. À la fin de sa vie, André Breton a été agressé, on a mis le feu à sa porte, et où un policier est venu l'interroger, il a répondu « Monsieur, j'ai préconisé l'incendie des âmes, pas l'incendie des paillassons. »
Superbe.
Quelques questions à Hélène, bien sûr, ou à Georges, on a un peu le temps.
N'hésitez pas. Vous avez évoqué des légendes populaires. C'était est-ce qu'aujourd'hui, la pensée scientifique étant, les jeunes générations étant, il y a vraiment plus vraiment création de légendes populaires. Elles sont restées, on va dire, à l'état où elles étaient au 17e, 18e, 19e siècle. Et est-ce qu'aujourd'hui, le travail des fées se fait plutôt effectivement au travers d'Harry Potter ou je ne sais quelle réalisation, et qu'il n'y a plus, du côté des légendes populaires, cette espèce de création qu'il y avait au fur et à mesure, j'imagine, puisque vous avez dit que c'était un processus dynamique au fur et à mesure des années, elles évoluaient, et qu'en est-il, est-ce qu'elles se sont arrêtées, ces légendes, ou est-ce qu'elles continuent?
Alors, je pense en effet qu'au niveau des légendes populaires, tout le travail qui a été fait, notamment au XIXe siècle, qui a été un travail de collecte et de collectage, Donc ça a été fait partout en Europe, c'est-à-dire que vraiment, je dirais qu'au début du 19e, l'Europe entière se passionne hein, pour les contes et les légendes populaires. C'est là qu'on voit fleurir effectivement les contes d'Andersen, les contes de Perrault, etc. Donc tous ces contes-là, Andersen, on a aussi, il y a eu Goethe, il y a eu plusieurs auteurs qui se sont tout au long. Donc l'initiative vient d'Allemagne en effet au départ. Cet engouement pour les contes et les légendes populaires, mais après c'est toute l'Europe hein, qui a été prise. En Angleterre il y en a eu beaucoup en France aussi. Ces contes-là, comme le disait Georges, en évoquant notamment les souvenirs avec sa grand-mère, ce sont des contes et des légendes qui étaient des contes et des légendes de tradition orale populaire, c'est-à-dire que avant, au 19e siècle, même encore, je dirais, au début du 20e, il y avait cette transmission orale, et donc il n'y avait effectivement pas toute la technologie qu'on a actuellement. Et donc je vais évoquer un point familial aussi, mais par exemple, moi, mon arrière-grand-père était le conteur du village, c'est-à-dire que dans les villages, on se réunissait en semaine, il y avait un conteur qui racontait pour le village, je dirais qu'il faisait donc office de soirée TF1 du samedi soir, en mieux évidemment, et qui racontait et qui transmettait ces légendes-là. La collecte a permis donc de rassembler ces écrits, ces légendes, elles sont passées à l'écrit, et ce qui a permis un support aussi de vulgarisation auprès de tout le monde. Maintenant, désormais, effectivement, nous n'avons plus de cette tradition orale. Maintenant que le livre est largement démocratisé, que tout le monde y a accès, désormais, je dirais, il n'y a même plus le livre, il y a les tablettes et les ordinateurs, mais bon, je dirais surtout les tablettes, les téléphones, etc. Cette tradition de l'oralité dans nos sociétés, elle ne peut plus, je pense que elle n'a plus. Elle a une place, mais je dirais que sa place va être marginale, où elle va être, on va raconter, effectivement, je pense qu'il y a encore, et heureusement, des grands-parents et des parents qui racontent à leurs enfants les histoires de tel endroit ou de tel lieu, mais effectivement, ça va être, je pense, dans le cadre d'une rencontre avec la nature, comme tu l'évoquais avec ta grand-mère, mais voilà, mais par exemple, où on n'a pas entre les mains à ce moment-là le livre pour raconter telle histoire, et donc on va se balader, on va se promener à tel endroit, on va voir telle forêt, on va voir telle source, on va aller voir tel lac, et à l'occasion on va raconter voilà cette légende-là, parce qu'effectivement à ce moment-là on est dans la nature, on est sans support de documentation, et on raconte ce dont on se souvient, ce que l'on nous a raconté. Après, effectivement, de nouveaux contes, je dirais qu'effectivement, de nouveaux contes et de nouvelles légendes sont créés aujourd'hui. Je pense qu'elles sont inspirées, malgré tout, et obligatoirement, évidemment, parce que de ces savoirs, de ces légendes, contes et légendes, je pense que l'auteur d'Harry Potter et tous les auteurs qui sont présents aujourd'hui aux Imaginales sont bien sûr nourris de ces contes-là, de ces légendes-là, de cette féerie-là, obligatoirement. Après, effectivement, je pense que c'est revu, que c'est corrigé. Par exemple, je sais que dans un de mes ouvrages, donc L'étrange cabaret, qui raconte l'histoire de plusieurs fées, j'ai une de mes fées qui est une fée mélusinienne. Alors, on retrouve exactement le même schéma. Donc, elle est unie à un mortel. Elle est frappée d'interdit, sauf que l'interdit, ce n'est ni le mot mort, ni le fait d'être vue nue au bain. Et à partir du moment où cet interdit est bravé, il y a comme punition, on retrouve, c'est toujours le même schéma, c'est-à-dire que la fée s'enfuit, souvent avec ses enfants ou son enfant. Voilà, donc je pense que cette inspiration-là, elle est là. Après, effectivement, dans notre culture, pour retrouver des contes et des légendes qui n'auraient pas encore été mis par écrit, je pense que c'est possible, il faut aller dans les campagnes et il faut demander, je dirais, aux anciens, à ceux qui conservent encore une mémoire de certains lieux. Voilà, c'est les légendes et les contes qui y sont associés.
Oui, en ce qui me concerne, j'aurais deux réponses. Ces collectes qui sont extrêmement importantes, au 19e siècle, mais il y en a aussi dans la première partie du 20e, notamment le Musée des Arts et Traditions Populaires a largement contribué en lançant des équipes avec le CNRS sur le terrain. J'ai eu l'occasion d'accompagner quelques-unes à une certaine époque. On donnait aussi lieu pour la partie érudite à des classifications internationales. Je pense notamment la plus connue qui est la classification Arne Thompson, justement parce qu'on avait récupéré, je parlais de la légende de la Merluse dans les Vosges tout à l'heure, qui est aussi une fée qu'on peut rapprocher d'autres typologies de fées dans toute la France, y compris en Languedoc ou en Bretagne. Ça a permis de créer une classification en rapprochant les contes de fées, en retrouvant ce que tu disais tout à l'heure, une structure commune. Et je crois que de la même façon, alors elles sont classifiées d'ailleurs par numéro, on sait, le conte de Jean de l'Ours par exemple, il a 40 versions différentes, etc., etc. Ou la belle aux cheveux d'or, ou l'archer qui est avec son chien, tout cela sont des choses qui nous permettent de rendre compte de la diversité aussi de la créativité humaine. Claude Lévi-Strauss, dans son introduction à l'anthropologie structurale, disait que sous toutes les latitudes, à toutes les époques et de tout temps, les hommes ont toujours aussi bien pensé. Et je pense que les contes de fées sont l'expression justement de cette bonne pensée des hommes. Et les hommes ont toujours su créer. Alors il n'y a pas de raison d'ailleurs pour que ça s'arrête. Et ce que nous vivons aux imaginales avec la fantaisie, avec la science-fiction, etc. Comme tu le disais, avec des structures qui restent les mêmes. Il y a des structures anthropologiques de l'imaginaire qui sont inhérentes à la nation humaine et qu'on peut trouver à travers le monde. Je me souviens d'un colloque que j'avais organisé sur l'Enceau du Lac en 1984 à Rennes, là, le pays de la fée dont je vous parlais tout à l'heure, et il y avait là un professeur chinois. Et à un moment donné, on en vient évoquer le conte du chevalier à la charrette. On sort un peu des faits, mais enfin, pour montrer la diversité. Et le professeur chinois, qui était professeur à l'université de Pékin, vient me trouver à la sortie, mais il me dit, nous avons ce conte du chevalier à la charrette dans la tradition chinoise. Ce qui prouve que ces structures anthropologiques existent et sont communes à toute l'humanité. Et que l'homme, il est homme de la même façon partout, il a les mêmes rêves. Alors après, ça se diffuse. Claude Lévi-Strauss dit, on peut atteindre à la diversité de la nature humaine, soit en allant chercher dans les diversités, puis en essayant de retrouver la racine commune, soit en partant de la racine commune et en regardant ce que ça a donné en termes de diversité. Et ça, c'est tout à fait encourageant. J'ai une fille, moi, qui est comédienne, qui fait beaucoup de spectacles pour enfants. Elle m'a montré le dernier spectacle qu'elle a écrit, parce qu'elle est aussi auteure. C'est un conte de fées, mais transposé pour le théâtre. Et c'est à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, 93. Il y a encore des jeunes qui créent des contes de fées. Mais bon. Oui, Jacques. Monsieur le Président.
Tu as bien voulu nous indiquer tout à l'heure que la fraternité universelle allait arriver un jour. La réflexion qui m'est venue, c'est qu'on a annoncé à mille et une reprises la fin du monde en faisant des dates très précises.
Oui.
Donc je voudrais savoir si le sujet de la fraternité universelle, il y a eu une date précise.
Certainement, je pense que d'ailleurs, la fraternité vosgienne doit avoir des lumières là-dessus, il suffirait de l'interroger.
On a appris aussi des choses très pratiques aujourd'hui, s'il y a des faits ici, semble-t-il, c'est important qu'elles s'annoncent comme morganiennes ou malusiniennes, parce que notre destin sera très différent.
Ouais, exactement.
Grand merci Georges, grand merci Hélène.
Merci.
C'était une imagination très illuminante pour nous. Merci.